18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Et bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez la quotidienne d'Info Locale, c'est vous qui le dites sur Radio U. Au programme ce soir, nous vous emmènerons à la rencontre de l'artiste New Pop Fred Ebami que l'on a rencontré à la Super Expo New Pop au Comédia. Mais tout de suite, nous avons au téléphone un de ceux qui seront sur la scène de la Carène jeudi soir. Vous le connaissez sans doute sous le nom d'Arthur B. Gillette en tant que guitariste de Moriarty. Il sera sur scène avec son nouveau projet Mick Strauss, je ne sais pas comment on dit. Bonjour Arthur.
C'est comme on veut. Moi je dis Strauss, mais après c'est comme Mitterrand. Il y a des gens qui disaient Mitterrand et puis d'autres qui disaient Mitterrand.
Très bien. Bon, je ferai comme je pourrai. Ça va peut-être évoluer au fur et à mesure de l'interview et de l'émission. Donc, qui est Mick Strauss? Je vais essayer de le dire comme ça. Ce que nous dit le site de la Carène, c'est ses chansons semblent venues d'ailleurs. Arrivé sur Terre par le sud des États-Unis, sorti du swamp à la lueur de la pleine lune, la nuit est chaude et les sueurs froide. Ainsi commence l'errance curieuse de chansons où se rencontrent des styles musicaux, des personnages, des histoires, des émotions. On les écoute comme elles sont jouées, tous les sens en éveil. Tout ça ne résout pas le mystère, mais qui est Mick Strauss? Quelqu'un affirme l'avoir croisé lors de voyages en Amérique ou ailleurs, souvent et depuis longtemps. C'est Arthur B. Gillette, le guitariste de Moriarty. Il le décrit comme un dandy aux semelles de vent, inadapté social, charismatique, malin et drôle, faux-monnayeur et myope. Ses chansons sont le récit de ses aventures ou des lettres envoyées à ses amis. Arthur Gillette n'en dira pas plus. Peut-être qu'il l'a pris pour un autre ou qu'il a seulement rêvé de Mick Strauss. Alors, qui est Mick Strauss, mythe ou réalité, Arthur?
Non, mais la dernière phrase, je trouve que ça résume bien. C'est-à-dire que je crois qu'on a tous des rêves, tous et toutes. Et puis parfois, on se réveille le matin et on a vécu plein de vies pendant la nuit. Donc pour moi, Mick Strauss, c'est un peu ces êtres qu'on devient la nuit quand tout est permis. On peut voler, il n'y a plus d'apesanteur. On peut nager dans des océans cosmiques. Et donc pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, Mick Strauss, c'est l'occasion de faire tout ce que j'ai envie de faire, sans trop réfléchir.
Et Mick Strauss, en fait, c'est un groupe, ce n'est pas que toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres membres? Il me semble qu'il y a Jennifer Hutt, Vincent, alors là, c'est dur, je ne sais pas comment on le dit, Talpert, Rowan Berrou, c'est ça, ouais. Et avec Vincent Torel aussi à la prod.
Et sur scène, il y a aussi Brendan Leroic. Oui, c'est des musiciens, bien sûr. C'est un super groupe avec des musiciens incroyables que j'ai rencontrés à différentes époques de mes rêves et de ma vie. Et donc, on a sur scène, il y a donc une batterie, une basse, un violon avec des claviers. Et puis, moi, je fais de la guitare. En fait, ce sont des gens qui ont joué avec des artistes que j'adore, comme Will Oldham ou Don Cavalli ou Tisdap, un groupe Touareg. Donc, c'est des artistes qui ont, des musiciens qui ont plein de vie aussi et plein d'expérience. Et c'est pour ça que je fais appel à eux aussi, parce qu'ils amènent chacun leur culture musicale. Et c'est ça qui est chouette, quoi.
Et alors, comment tu définirais le style de l'album? Libération écrivait il n'y a pas si longtemps que ça. Le cofondateur de Moriarty sort un album de blues extraterrestre déphasé, aussi classique que singulier.
Alors, en fait, nous, on s'est dit que le titre de l'album, c'était le style de musique. Donc, l'album s'appelle Southern Wave. Donc, ça veut dire la vague du sud, mais c'est aussi wave comme no wave, cold wave ou new wave, et southern comme le sud. Donc, ce qu'on s'est dit, et quand on a enregistré l'album, on a toujours tenu en tête, c'était d'être, c'est toujours cette boussole entre quelque chose d'assez froid, mécanique, un peu malade, sous perfusion, et puis un mélange avec un truc beaucoup plus chaleureux, sensuel, du sud des États-Unis, si tu veux, parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas aussi. Et donc l'idée c'était dès qu'il y avait un morceau qui sonnait un peu trop new wave ou wave, on allait plutôt vers quelque chose de plus lancinant, de plus de sueur. Et puis dès qu'il y avait un morceau qui était peut-être trop blues ou trop cliché dans ce sens-là, on lui ramenait une dimension plus mécanique, plus froide. Voilà.
Et bien, ce que je propose aux auditeurs, c'est peut-être d'écouter un petit extrait, comme ça ils se feront leur idée par eux-mêmes, et puis on continue à discuter après. J'ai choisi le titre qui ouvre l'album, donc Southern Wave, et c'est Alien Libertin, c'est comme ça ?
Ok, ouais,
on écoute un petit extrait et on revient en discuter juste après.
Ok. And if you mix them up with gin, you can really get things done. You're an alien libertine. You're really living the dream. My alien libertine. You're really living the dream. Behind the starship's blinds. She was her mother's son. Never made it to number one. He was drafted at birth. Sent to planet Earth. He was stripped from his rights to put up a good fight. But he never did like war, rather be a whore on the dance floor. You're an alien libertine. You're really living the dream.
Voilà pour un extrait de Alien Libertine, c'est donc le premier titre qu'on trouve sur cet excellent album, Southern Wave. C'est sorti le 18 juin, si je ne m'abuse. Arthur, qu'est-ce qui t'a ou vous a donné envie avec le groupe de prendre cette direction au niveau artistique ? C'est les voyages ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des traces de plusieurs voyages que j'ai fait aux États-Unis. Donc moi je suis des États-Unis, ça s'entend peut-être pas, mais mes deux parents sont américains.
Et effectivement, à l'accent vaut mieux le préciser parce qu'on l'entend pas du tout.
Voilà. Mais j'ai grandi en France et donc je suis beaucoup allé aux États-Unis avant le Covid en fait. Et j'ai enregistré beaucoup de sons de personnages rencontrés sur la route. Depuis un peu le lac supérieur qui se trouve au nord de Chicago, au Wisconsin, jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Une sorte de road trip que j'ai fait en train d'ailleurs. Ils ont un super système de train dans cette région-là. Et donc j'ai fait beaucoup d'enregistrements de terrain et donc ça c'est déjà c'était un peu la base pour moi de l'album. On entend sur le disque des extraits de tous ces moments. Et puis ensuite, pour la musique, je pense que c'est des chansons que j'ai écrites depuis longtemps. Hein. Ça fait peut-être une dizaine d'années que j'ai écrit, les 10 dernières années, on va dire. Et donc, avec les autres musiciens, la direction musicale s'est faite sans trop réfléchir. Hein. C'était vraiment... moi, je savais que je voulais ces musiciens et ces musiciennes-là et en apportant, comme je disais tout à l'heure, leurs influences et leurs expériences respectives, ils ont façonné le son du disque, quoi. Un peu sans que j'ai grand-chose à faire, en fait.
Alors, avant de reparler à cette pratique du field recording, comme on dit, parce que évidemment, nous, en tant que radio, ça nous intéresse énormément. Je voulais savoir, niveau artistique, les autres compositeurs, chanteurs, etc. Quels sont-ils ceux qui t'ont influencé pour cet album ? Évidemment, Libération parle de ressemblance avec Lou Reed, et là, je pense qu'à l'extrait, ça n'a pu échapper à personne au niveau de la voix. Moi, j'ai aussi l'impression d'avoir entendu sur l'album des teintes de Dylan, entre autres, mais il y a vraiment plein de choses là-dessus.
Je t'ai pas entendu pendant un instant. Tu m'entends, oui. Alors, ce que j'essaie de faire quand j'écris et quand on enregistre un disque, c'est de pas trop mettre des choses qui pourraient être des influences pour pas parce que j'ai pas du tout, enfin je crois tous dans le groupe on a pas du tout envie de copier quoi que ce soit, donc on s'est un peu tenu à l'écart de ça. Après il se trouve c'est vrai que ma voix ressemble à celle de Lou Reed et ça c'est une question quasiment physique quoi.
Ouais. Et puis il y a pire.
Oui, il y a pire. Bon. et euh, Mais en fait, je pense que c'est plus des façons d'enregistrer. Par exemple, on a enregistré sur bande en live dans le studio. Donc ça peut être façonné un certain son aussi dans le studio Black Box, qui est patronat de Rennes, entre Rennes et Angers. On a mis aussi pas mal de machines qui datent de certaines époques. Donc peut-être que ça a coloré le son, bien entendu. Donc c'est pas un album moderne, je dirais. Mais par contre, on n'a pas essayé de reproduire quoi que ce soit. Et encore une fois, chacun ayant amené ses propres sons et ses propres mélodies aussi dans les morceaux, je pense que c'est un peu un mélange et sans doute on n'a pas les mêmes influences entre nous.
Et c'est vrai que vous avez essayé de plus travailler avec de l'analogique plus que sur du numérique ?
Ouais, parce que c'est une technique en fait. C'est pas tant c'est sûr qu'on sait très bien que la batterie, les cymbales par exemple, ça sonne toujours mieux sur bande magnétique, donc en analogique qu'en numérique. Ça, c'est la compression naturelle sur bande, ça fait un grand tout le monde le sait en rock, enfin tous les grands groupes enregistrent encore sur bande au moins les sections rythmiques. Mais c'est plutôt pour le processus, c'est-à-dire que quand on enregistre sur bande, on sait qu'on peut pas forcément corriger. Donc on sait qu'il y a quelque chose d'un peu de solennel, de mystique, de magique. On sait que on n'a pas tant de prises que ça. Peut-être qu'on a fait 3-4 prises par morceau. Et donc c'est là où il faut être le meilleur. Donc ça demande beaucoup de concentration. Ça demande de l'accepter aussi les défauts, de tolérer ça. Et je pense que ça fait partie du son aussi de groupe, c'est que c'est pas parfait, quoi, et c'est pas tout corrigé.
Et donc, une vraie recherche sur le son, puisque là, on parlait de la manière d'enregistrer, mais en termes d'enregistrement, on le disait un peu plus tôt, il y a du field recording, et oui. De ce que j'ai lu, c'est une pratique que tu as découverte et développée à Radio France, où tu as été pigiste pour proposer des docus sonores, c'est ça ?
Ouais, je fais aussi partie de Moriarty, et en allant avec Moriarty, on allait beaucoup jouer à la radio, faire des concerts, et puis à force, tu commences à rencontrer les techniciens de la radio, et puis d'idées de fil en aiguille, j'ai proposé des documentaires, de création sonore, et donc j'ai produit quatre documentaires avec France Culture. Et j'ai surtout appris avec eux. En fait, j'ai regardé travailler parce que quand on fait un documentaire à Radio France, la règle c'est qu'on travaille avec les ingé-sons de Radio France. Et donc c'est extraordinaire de les voir travailler, quoi. Il et elle sont des mémoires déjà, des grandes mémoires du son, des gens qui ont des techniques uniques au monde en fait, quasiment à part peut-être la BBC et peut-être Deutsche. La radio allemande, c'est vraiment une des trois meilleures radios du monde. Et donc ils m'ont appris plein de choses. Je les ai regardés travailler souvent. Ouais.
Et du coup, qu'est-ce que tu as l'impression que ça apporte, là, cet album qui est plein de choses comme ça ? Tu le disais, il y a des extraits de discussion, il y a des extraits de, comme on dit, de sons d'ambiance, etc. Ouais. etc. C'était vraiment cette idée de voyage que tu voulais apporter en plus ?
Je savais pas trop ce que je voulais faire. Ce que j'aimais, c'est que ces gens que j'ai rencontrés, ce sont des gens de tous les jours, des gens qu'on croise, qui ont des métiers, qui sont pas des artistes en fait. Ce sont des, il y en avait un qui était ferrailleur, une autre qui était biologue, qui allait chasser les sons des loups, on va dire, qui allait compter les loups dans les forêts. Et d'autres, et plein d'autres, et une sorte de sagesse populaire que je voulais absolument transmettre, d'une part, que je trouve hyper vivante aux États-Unis, un peu au-delà de l'image qu'on se fait des États-Unis, surtout du milieu des États-Unis, de gens un peu fous, un peu très religieux. Là, il y avait toutes formes de gens, toutes sortes de discours hyper intéressants. Et puis par rapport au son, il y a des endroits extraordinaires, quoi, au lac Supérieur dont je parlais tout à l'heure, qui est la plus grande réserve d'eau douce au monde, entre les États-Unis et le Canada. Il y a des sons, il y a des formations rocheuses qui font qu'il y a un moment d'entendre un disque, le ressac de l'eau qui vient cogner, et ça ressemble pas du tout à la mer parce que c'est de l'eau douce, donc ça fait tout à fait autre chose. Et plein d'autres sons, les trains aussi, il y a des sons de trains. Je trouvais que c'est aussi l'histoire, pour moi, l'histoire d'un pays, c'est aussi l'histoire sonore. Donc je voulais transcrire ça dans le disque, comme c'est mes origines. C'était ma manière aussi de penser à ce pays qui a plein de défauts. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je crois que mes parents l'ont quitté il y a très longtemps, mais qui est aussi, que j'aime beaucoup par ailleurs.
Ouais, on sent vraiment dans le disque que c'est ça. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai, que déjà, ça s'écoute vraiment comme un disque. C'est pas fait pour écouter une chanson par-ci, par-là, même si ça marche très bien, hein, mais que c'est fait pour écouter du début à la fin et qu'on est vraiment en train de nous raconter une histoire. Et finalement, cette histoire, c'est peut-être l'histoire de cette partie des États-Unis.
Ouais, je pense qu'il y avait clairement une volonté quand on a fait l'ordre et quand on a fait le mastering d'un disque, en fait, on choisit le temps entre les chansons. Et on a vachement travaillé là-dessus aussi, en fait, jusqu'à ces détails-là, avec le producteur, donc Vincent Torel, qui est un musicien extraordinaire aussi, qui a joué avec Beck, R, Justice, enfin plein de groupes. Et on a vachement travaillé là-dessus aussi, ouais, d'en faire une sorte de que ce soit difficile de s'en échapper, quoi, qu'une fois qu'on le mette, qu'on veuille y rester. Et c'est sûr qu'on n'a pas trop, comme c'est fait sur le label de Moriarty, donc qui est aussi mon label, on n'avait pas du tout de contraintes économiques, il fallait pas faire des singles, je sais pas quoi. Donc on pouvait aussi être libre de cette forme-là. Et je pense que c'était important, ouais, que ce soit presque comme un livre ou quelque chose comme ça.
Effectivement, ça marche très bien.
Ouais. Et puis je pense aussi que c'est aussi comme on a fait aussi des vinyles et des cassettes. Je pense que c'est important, par exemple sur une cassette, pour les gens qui sont en voiture, qui ont un lecteur cassette. C'est important aussi qu'il y ait une continuité comme ça, que ce soit pas juste un empilement de titres un peu hétéroclites.
Et alors sur l'album, tu ne chantes pas vraiment, on va dire que c'est du chanté parlé. J'ai lu qu'en fait tu n'avais jamais vraiment pris de cours de musique. Les seules fois où tu étais inscrit, tu séchais les cours, a priori pour aller dans les magasins de jouets, en tout cas c'est ce que j'ai lu. Est-ce que ceci explique cela ou c'est un réel choix artistique en fait de chanter comme ça?
Bah, je pense que toujours en art, nécessité fait loi. Donc, quand il y a des choses qu'on ne sait pas faire, on trouve d'autres façons de les faire, et sans doute des façons plus singulières et originales. Donc pendant longtemps, je m'en souviens très bien qu'au début de Moriarty, quand on faisait des scènes, je faisais semblant de jouer de la guitare à la fête de la musique parce que je comprenais pas trop les accords, je comprenais pas trop où j'étais. Et puis de temps en temps, bah, je mettais un peu de son et c'était souvent assez à côté. Et je m'en souviens très bien, il y avait des jeunes Chiliens que j'avais croisés, qui étaient venus me voir et qui disaient ah mais il faut absolument que tu joues dans un autre groupe, vraiment la musique expérimentale que tu fais, c'est fantastique. On veut reprendre de la musique de Captain Beefheart, donc il y a un chanteur américain des années 60-70 qui a beaucoup influencé tout un pan de la musique et du rock américain. Et il se trouve que j'ai perdu leur numéro de téléphone, donc ça s'est jamais fait. Mais en tout cas, voilà, c'était l'occasion. Et là, je me suis rendu compte, finalement, je sais pas jouer dans le canon, mais j'ai mon style. Et donc, c'est un choix, mais de la nécessité, en fait, d'une certaine façon.
Ouais, et qui, une fois encore, hein, marche très bien. C'est très, très agréable à écouter. Peut-être une dernière question, Arthur. À quoi s'attendre sur scène puisque j'ai lu que tu disais dans une interview, a priori, que Mick Strauss pourrait rentrer en transe. En tout cas, il aurait le droit, alors que toi, en tant qu'Arthur Pete Gillette, tu ne le ferais pas forcément.
Non, moi je suis quelqu'un de très sage. Mais Mick, bah oui, Mick c'est l'exutoire, c'est le moment où on peut être qui on est dans les rêves, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait j'en sais rien, mais je me mets dans un état. Ça me permet de mettre dans un état, dans un état particulier. Je pense vraiment qu'on active d'autres zones dans mon cerveau et dans mes muscles, et donc c'est pas non plus c'est pas du noise ou quoi, donc ça me met dans un, je rentre dans quelque chose, voilà, et je sais pas toujours comment en sortir, un peu comme Jack Nicholson dans Shining. Il y a un documentaire sur le making of de Shining qui est génial, et on le voit qu'il fait sa scène où il est derrière la porte, où il essaye de sortir du congélateur, et puis il devient fou, et on voit, donc il coupe au tournage, on dit couper, et puis on voit qu'il est encore dans son personnage pendant au moins 5-6 minutes, on le voit qui qui a du mal à redescendre. Et je me sens un peu comme ça, quoi, parfois. Même si c'est pas un film d'horreur sur scène.
Ouais, on espère, on s'en doute. Et voilà. En tout cas, pour voir ce que ça donne, ce sera donc jeudi à la Carène. Il y aura également les Bantam Lions, les Carène Sheriffs. Je vous conseille d'arriver tôt parce que c'est entrée libre, dans la limite des places disponibles. Ouais, ouverture des portes à 20h30. Allez-y tôt. On va se quitter. Arthur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je te propose qu'on se quitte sur Pick My Poison. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot avant qu'on raccroche le téléphone?
Ça, je pense à une sorte de petite flèche empoisonnée qu'on recevrait dans la jungle amazonienne. Et on ne sait plus trop si on est en train de mourir, si on est en train de s'envoler dans les ciels. Et cette chanson, ça parle de ça.
Merci beaucoup, Arthur B. Gillette, d'avoir été avec nous pour la sortie de Southern Wave. Même si la sortie commence à dater un peu, puisque c'était en juin. On rappelle que c'est Mick Strauss. Et allez à la Carène jeudi, vraiment, allez-y, mais dépêchez-vous.
À jeudi.
À jeudi, merci d'avoir été avec nous, Arthur.
Au revoir. Salut.
Come on!
Vous écoutez toujours le 101.1 de Radio Russe, sa quotidienne d'info locale, c'est vous qui le dites. Après avoir discuté avec Arthur Bitgillet de son nouveau projet Mick Strauss, qui sera sur la scène de la Carène jeudi 16, bien je vous propose de partir dans une galerie d'art que l'on connaît bien, ça s'appelle le Comédia à Brest. En ce moment et jusqu'au 31 décembre, ça va, vous avez un peu le temps, vous pouvez admirer les œuvres de 19 artistes pour l'exposition New Pop. Cette expo s'intéresse aux différents mouvements du post-pop art, graffiti artistes, street artistes, sculpteurs, tatoueurs, y explore les thèmes de la culture de masse et de la contre-culture. Nous, on est allé rencontrer là-bas le peintre et digital artiste franco-camerounais qui s'appelle Fred Ebami. On vous propose l'interview tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Fred Ebami. Nous sommes aujourd'hui au Comédia de Brest pour une expo exceptionnelle. Venez la voir, c'est l'expo New Pop.
Fred Ebami, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est actuellement au Comédia pour l'exposition New Pop. Vous êtes un des artistes, un des 19 artistes exposés. Je crois que c'est, de ce que j'ai compris, une grande fierté pour le Comédia de vous exposer ici. Pour vous, comment ça s'est fait? Comment vous avez été contacté? Est-ce que vous avez dit oui tout de suite quand on vous a proposé?
Alors, mon histoire avec le Comédia date du début de l'année. Parce que j'étais déjà sur une expo qui s'appelait Vision d'Afrique, qui s'est terminée en juillet. Et pareil, quand Adeline est venue me contacter pour cette première expo, je lui ai demandé « mais pourquoi moi ?» Et elle m'a dit qu'elle avait cherché. Et beaucoup de fois, mon nom revenait, et surtout dans le monde du pop art, parce que c'est de là que je suis issu. Et elle m'a dit que apparemment j'étais l'un des seuls artistes pop art d'origine africaine répertoriés dans le monde. Donc je pense que c'est comme ça que ça s'est fait aussi.
Et alors justement, c'était ma prochaine question. Vous êtes un des artistes d'origine africaine, un des seuls répertoriés au niveau du pop art ou du post-pop art carrément. Vous n'en avez pas trouvé d'autres non plus à votre connaissance, il n'y en a pas d'autres?
À l'époque, quand elle m'a dit ça, j'ai regardé, j'en ai trouvé deux qui étaient marocains. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'essor du pop art et du new pop ou du post-pop art, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Répertoriés, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé, mais c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit non répertoriés, je pense qu'on est beaucoup. Répertoriés, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Mais j'espère que ça va changer.
Pour quelqu'un qui, justement, c'est un exercice difficile en radio, qui n'a pas vu l'expo, comme nous, on a eu la chance de le faire, comment vous décririez votre style, ou en tout cas le style des œuvres que vous exposez, puisque vous en exposez 5, si j'ai bien compté. Non, un peu plus.
J'en ai 6.
Oui, c'est ça, 6 au total. Comment vous décririez votre style là-dessus? Parce qu'en fait, il y a quand même 3 formes différentes, 3 manières de s'exprimer, j'ai envie de dire.
Alors, ça fait partie de mon caractère aussi. Je suis un touche-à-tout. Et quand j'ai commencé la 2D, c'était plus par rapport à mon amour pour l'affiche, pour les affiches, pour ce côté... mettre mes visuels sous verre pour que ça claque avec beaucoup de couleurs. Je suis passé à la peinture après. Moi, j'ai fait le truc en arrière. Je n'ai pas fait la peinture d'abord et le print après. J'ai fait le print d'abord et la peinture après. Et du coup, cette envie de dépasser le côté plat m'avait toujours habité, mais je ne savais pas comment le faire. Et au fil des rencontres, j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé à aller voir ailleurs. Et d'où aujourd'hui la sculpture qui est présentée. Et pour définir mon style, c'est un style qui se veut ludique, mais aussi un peu joueur. Pas fédérateur en tant que tel, mais messager, des messages que j'ai compris, que j'ai envie de partager. Un peu edgy, parce que je suis aussi un peu edgy, je crois, et bienveillant.
Bienveillant et avec des messages, c'est quand même... c'est un peu toujours compliqué d'avoir cette étiquette-là, mais ça fait un peu artiste engagé aussi. Il y a des vrais messages forts que vous avez envie de passer à travers votre art.
Alors oui, il y a beaucoup de messages. Il y a des messages militants. Pour cette expo, c'est beaucoup la cause noire qui est représentée aussi. Mais dans le monde de tous les jours, je m'amuse à faire du slogan. Par exemple, j'ai un slogan où j'ai pris... Les titres des quotidiens, Le Monde. Hein. Par exemple, j'ai un slogan où je dis « Le Monde part en couille ». Et quand on regarde Le Monde aujourd'hui, il part vraiment en couille. Donc je m'amuse avec des trucs sérieux pour pas pour un peu épurer le message violent, mais que ce soit un message qui reste, mais qui reste avec aussi ce côté, c'est un message de tous les jours en fait, c'est pas un message philosophe ou donneur de leçons, mais c'est moi en tant que personne lambda dans ma société qui réalise des choses à un niveau juste normal.
On sent aussi vraiment l'influence qu'ont eu les comics, vous avez passé votre enfance à en lire, c'est ça?
Alors les comics c'était mon échappatoire, je voulais être un super héros et pour la petite histoire, c'est étant gamin, quand il y avait quelque chose qui se passait dans le monde ou autour de moi, je me disais à quel moment ces super héros ils vont arriver pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous protéger. Et manque de peau, j'avais cette expectation de jamais les voir arriver, donc je me suis dit il faut que je cherche ces super héros ailleurs. Et ce ailleurs c'était où? C'était les gens qui m'entouraient, les êtres humains de chair et de sang. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que les super-héros, ces vrais super-héros, c'était juste des gens normaux comme vous et moi.
Alors au niveau de la technique, il y a quelque chose de super intéressant. Si on fait un focus sur votre travail en 2D, vous le racontiez tout à l'heure là, pendant la conférence de presse et la présentation, c'est le travail à l'ordinateur. Et il y a eu une légère frustration à un moment donné d'être pas considéré comme un art en fait, et comme un artiste en travaillant de cette manière-là. Donc vous avez voulu pousser la chose plus loin.
Alors la frustration, elle venait pas de moi, elle venait entre parenthèses des puristes. Moi, je me suis toujours dit que cette technique-là, c'était la technique qui m'allait, parce que c'était le mélange entre le griffonnage que je faisais et le côté vraiment propre de la machine. Moi, je n'ai jamais eu de doute. Je ne savais pas que j'allais pouvoir exposer, mais quand j'ai commencé à exposer, je me suis dit... C'est moi, c'est ma manière de faire. Ceux qui aiment, ils aiment. Ceux qui n'aiment pas, voilà. Et ces gens-là, en fait, ce qu'ils m'ont donné, c'est cette envie de challenge. Et ce challenge-là a poussé à ce que je sois parmi les pionniers, on va dire ça, que je sois parmi les pionniers de cet art numérique, digital, et qu'aujourd'hui, c'est un truc qui se retrouve partout. Je vais donner une petite anecdote qui est un petit peu folle. Serge Ibaka, le champion de NBA, et Ninho ont sorti un album, ont sorti un single qui s'appelle Champion. Ils me contactent pour que je fasse la pochette digitale. Et aujourd'hui, cette pochette digitale, elle a été streamée 30 millions de fois. Donc, j'aimerais bien dire à ceux qui m'ont dit « Oui, le digital, c'est pas de l'art », allez dire à ces 30 millions de personnes que... voilà.
Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on vous présente dans le dossier de presse « Digital Artist ».
Bah oui, c'est mon média de base. Comme j'ai dit au départ... La peinture, c'est venu après parce que aussi, comme ces gens-là m'ont dit, digital, c'est pas de l'art. Je me suis dit, je vais essayer de faire ce que je fais au digital à la peinture. Comme ça, au moins, je serai à l'aise. Et voilà, maintenant, je fais les deux. Mais le digital art, c'est mon dada.
Vous êtes 19 artistes là à être exposés. Est-ce qu'il y en a un, deux, peut-être trois, allez maximum, vraiment où vous recommanderiez aux auditeurs d'aller les voir, d'aller voir évidemment cette exposition entière New Pop, mais peut-être d'aller fouiller un peu plus aussi sur chaque artiste.
Alors oui et non. Non, pas un, tous, parce qu'ils sont tous géniaux. Moi aussi je découvre alors que j'en côtoie quelques-uns. C'est fou, venez la voir. Mais un en particulier, parce que lui aussi m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé à faire ce que je fais, Speedy Graffito, et d'être exposé avec lui. Pour moi, déjà, ça, c'est dingue. Mais tous mes collègues qui sont là, c'est juste des univers différents qui parlent de la même chose. Mais c'est à voir. À voir, vous allez venir vous perdre, vous allez vous retrouver dans des choses, mais vous n'allez pas en sortir indemne.
Alors une dernière question qui va faire très Antoine Decaune sur France Inter, mais pour vous, qu'est-ce que le New Pop ?
Alors le New Pop, c'est cette nouvelle ère, et ce nouvel R aussi, AIR, qu'on apporte à une pratique qui est là depuis 70 ans déjà, et avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir, de nouveaux outils, parce que c'est ça aussi dont on parle. Le digital aujourd'hui, le digital c'est le langage de demain, mais c'est le langage de demain qui est déjà là aujourd'hui. C'est atteindre une nouvelle génération de gens qui ne regardent plus peut-être le papier ou qui est plus attiré par certaines couleurs ou certaines formes. New Pop, c'est ça, c'est nous qui venons avec un langage qu'on a appris avant et ce langage qu'on utilise maintenant.
Et ben merci beaucoup, Fred et Bami.
Merci.
C'est la fin de ce C'est vous qui le dites. On va se quitter sur un titre des Bontime Lions, Branque les Bontime Lions, qui seront sur la scène de la Carène jeudi 16, tout comme Mick Strauss, dont vous avez entendu l'interview en première partie d'émission. Mick Strauss, représenté à nos micros par Arthur B. Gillette, vous savez aussi le guitariste de Moriarty. Eh bien, rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour plus d'infos locales.
Info, bon plan, podcast, Radio U sur le net, radio-u.org.